Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo. Mois de février, mois de patrimoine africain. Cette année, CUTFM et le département d'études françaises soulignent le mois de l'histoire des Noirs et son 30e anniversaire. Tout au long du mois de février, et ce depuis 30 ans, CUT 89,5 FM vous invite sur les traces de la mémoire des personnes d'origine africaine et créole qui contribuent à la diversité de notre ville, notre pays et à l'essor de notre tissu social, notre économie et notre culture. Février, CUT 89,5 FM souligne le mois de l'histoire des Noirs et son 30e anniversaire. Vous êtes chaleureusement invités à participer, partager vos perspectives et commentaires en direct en nous appelant au 86 946 7000 86 946 7000 ou encore nous envoyer un message à pot.pourri@simpatico.ca. Mois de février, mois de l'histoire des Noirs et Créoles. Une présentation de CUT 89,5 FM, le département d'études françaises de l'Université de Toronto. Bientôt à l'émission.
Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
Con Alexandre Héron.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Vous écoutez Potpourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. madame, monsieur, bien le bonjour à vous, où que vous soyez. Nous sommes à 35-40 degrés à l'ombre. On vous souhaite bien le bonjour à Toronto, CUT 89,5 FM. Vous parvient de Heart House et un bonjour spécial à tous ces jeunes, toutes ces familles qui sont dans les locaux, les salles sont bondées, madame, monsieur. L'Université de Toronto est en marche ce matin. Conférences, plusieurs conférenciers et conférencières d'ici et d'ailleurs sont ici au rendez-vous même sur le campus de l'Université de Toronto. Un vrai laboratoire d'idées toute la journée et toute la semaine parce que j'y étais. Alors, cette émission, je vous rappelle, est présentée en partenariat avec le département d'études françaises, l'Université de Toronto, le campus de l'Université de Toronto de Mississauga. Une première, merci beaucoup, et le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, de l'Université de Toronto, le professeur Eddy Bouraoui, professeur et poète, et le Centre Canada Méditerranée, et oui, Radio France Internationale, Ciné Franco, Heart House, la semaine de la francophonie, vous souhaite le bonjour, 30 ans déjà, francophonie à CUT 89,5 FM, langue française et diversité linguistique, c'est le thème du mois de la francophonie édition 2017. Soyez les nôtres, j'espère que vous allez renouveler votre partenariat. Envoyez-nous un message immédiatement à pot.pourri@sympatico.ca. Plusieurs événements se dérouleront ici même à Toronto et à Mississauga avec nos partenaires de l'Université de Toronto, le campus de Mississauga, pot.pourri@sympatico.ca. Nos sincères remerciements à nos commanditaires et sponsors. L'ingénieur du son aujourd'hui, DJ Devera, Sloan Ballant, conception, animation, Eric Adair, avec vous jusqu'à 13h sur www.cut.fm. Et encore une fois, je vous rappelle que le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Et nous allons aussi célébrer notre 30e anniversaire. Vous êtes chaleureusement invités à partager vos perspectives. Quelle est la signification du mois de l'histoire des Noirs pour vous? Est-ce important? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin de célébrer l'histoire des Noirs? Et surtout, nous les parlons français. Si vous avez des commentaires, vous voulez partager vos perspectives, vous nous envoyez un message à pot.pourri@sympatico.ca ou encore... Notre ami Sloan est là. Bonjour Sloan, au 416-946-7000. Et aujourd'hui, notre programmation de ce dimanche 12 février, le premier, tenez-vous bien, le premier gagnant de notre jeu concours dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs est John Lee, qui nous écoute en ce moment. On va essayer de l'appeler avant la fin de l'émission pour voir s'il peut répondre à la deuxième question de notre deuxième dimanche du mois de l'histoire des Noirs. Et oui, va-t-il marquer des points parce qu'il faut répondre correctement à toutes les questions durant le mois de février pour gagner le grand prix que vous offre Potpourri et ses partenaires, restaurants partenaires. Nos remerciements au docteur Éric Pierre, consul honoraire d'Haïti, qui a très très bien parlé. Merci pour cet exposé et pour votre partage, vos idées, vos perspectives. Vos souffrances aussi, je pense, hein, sur la communauté haïtienne, mais aussi noire en général. Et oui, c'était dans le cadre du lancement du mois de l'histoire des Noirs, dimanche dernier. Vous pouvez aller télécharger l'émission en allant à www.popourishow.com. Traite et esclavage des Noirs aujourd'hui, mais pas seulement en Amérique du Nord, en Tunisie, tenez-vous bien. Si la traite transatlantique et l'esclavage des Noirs aux Amériques sont assez connus, on ne sait presque rien de la traite transsaharienne. Eh oui, manque de documents peut-être, ou le silence embarrassé ou sujet tabou. Nous allons discuter avec notre invitée Inès Mrad Dali. Elle est historienne, auteure d'une thèse « Identité multiple et multitude d'histoires, les Noirs tunisiens de 1846 à aujourd'hui ». Une collaboration spéciale de Elikia Mbokolo, animateur du magazine « Mémoire d'un continent » de RFI. Maintenant, Port-au-Prince, Haïti, au soleil. Et ben, Jovenel Moïse a été assermenté président d'Haïti pour les 5 prochaines années, mardi dernier. Il hérite d'une économie en lambeaux et d'une société profondément divisée. Le gouvernement du Canada offrira à Haïti un nouveau don de 91,2 millions de dollars pour des projets de développement axés notamment sur la santé, l'éducation des femmes et des jeunes filles en Haïti. Pour nous plonger au cœur de la cérémonie d'assermentation du nouveau président haïtien, nous recevrons la fondatrice de l'organisme culturel de l'Ontario, Festival Compa Zouk de l'Ontario, Janine Maillard, qui est quelque part entre Haïti et Montréal, me dit-on. Et puis le festival Sketch Comedy de Toronto, The Toronto Sketch Comedy Festival, se prépare. Et cette fois-ci, on nous dit que ça va promet d'être plus gros et meilleur que jamais. Et si cela vous intéresse, madame, monsieur, nous avons des billets pour vous, pour les auditeurs, nos amis, surtout si vous avez contribué à notre dernière campagne de levée de fonds. Vous nous envoyez un message immédiatement, 86 946 7000 ou pot.pourri@sympatico.ca. C'est du 1er au 12 mars 2017 au The Theater Center, 1115 rue Queen West. Et d'ailleurs, nous allons avoir une des comédiennes de ce festival Sketch Comedy de Toronto, Brie Watson. Elle est comédienne, blogueuse, écrivaine, enfin, elle fait beaucoup, beaucoup de choses. Elle sera des nôtres vers 12h30, à ne pas rater. Et puis, retour sur les lauréats des Victoires de la musique qui s'est déroulée vendredi à Paris, en France. Calypso Rose, que j'aime beaucoup, cette dame de 70 ans, reçoit sa victoire de la musique pour le meilleur album de musique du monde. Bravo, bravo, bravo. Et puis, vous avez aussi d'autres questions, entre autres, nous avons reçu une question d'un auditeur haïtien qui nous dit « Que pense Madame Janine Maillard sur le décret du président américain Donald Trump sur la déportation des résidents ou des étrangers plutôt. Alors, je ne sais pas s'il y a des Haïtiens qui sont impliqués. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de Mexicains qui sont déjà déportés depuis quelques jours vers le Mexique. Et voilà la question qu'on va poser à Janine Maillard, notre invitée, dans la deuxième heure. Et puis, si vous avez des jeunes, si vous aimez les jeunes plutôt, Ciné Franco, ce grand festival international de films, de cinéma français ici à Toronto, a besoin de vous, des bénévoles, pour son festival Ciné Jeunesse. Si vous êtes intéressé, appelez notre amie collaboratrice et partenaire info@cinefranco.com. Je répète, info@cinefranco.com, voilà une bonne façon, un bon moyen de tisser des liens avec d'autres francophones, francophiles de la région de Toronto, se faire des amis. Et enfin, participer à notre quiz du jour sur le point de l'histoire des Noirs. Je vous rappelle, tout au long du mois, il faut répondre correctement pour gagner les billets du Festival Sketch Comedy de Toronto ou encore un repas dans un de nos restaurants partenaires. Voici la question. L'Ontario adopte la loi contre la discrimination raciale. En quelle année cela s'est passé ou a été voté? D'après vous, 1944, B, en 1950 ou C, en 1958? L'Ontario adopte la loi contre la discrimination raciale. Et oui, il y avait de la discrimination raciale envers les Noirs. Pas très très longtemps d'ailleurs. Hein. Donc la réponse A, 1944, B, 1950 ou C, 1958. Nous attendons votre réponse avec impatience à pot.pourri@sympatico.ca ou encore facebook.com/popourrishow ou encore Twitter #popourrishow en un seul mot ou téléphoner à notre ami et stagiaire Sloane Ballon qui est ici 9 4 6 7 000 86 9 4 6 7 000. Et oui, et on m'a dit que Donald Trump est à la recherche d'un interprète ou d'une interprète bilingue pour accueillir le Premier ministre canadien, M. Trudeau, à la Maison-Blanche cette semaine. Si cela vous intéresse, eh ben, postulez. Pourquoi pas vous envoyer un message. On fera le contact. Hein. Popourichaud, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence.
soba Yandi mundu disu tseki disu kumamba Daniel yikubuye mwana mama bundi bazore aye Kiariwe mwana mama kimandante aye Ubatambirie mwana ba mama bundi bazore aye Ubatambirie mwana ba mama bundi bazore aye Bawale mendene lime kama kelele mingi Ufola mbati Omona singa batonga madusi ya kala Aui Siesa
Le Mambo Club na Lola Kiski Sombe A Pesi Sangona Panama
Yani nyangonga na bomatango nanga pamba Na sali sali susu bato na mobini motoma wazala katelo Mama Imanite 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 Yani nyangonga na bomatango nanga pamba Na sali sali susu bato na mobili moto mala mwazala katego Mama Imanite 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 Imanite
Nzambe 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 nanga ye ye Yonso yo pasie nga na kumona Nasalisa moto na koma ene minaye Tango nga na botaka bango bate mwe basalaka Tuna jambe lise ye na jine lise lele Lelo e komilika moto we la kombo ya mufuma
Genge basomba kate ye ye
La no baka atende le verite koye bana
Denisola
Patrick Kabasele ye narale Sango oh sango
Sango yo
Sango nanga
Sheraton
Atetero Yemo watsenye no nikae Ole abato wa minde musa we ni mbope Muna ubae Asime apwambe samde mbana mama yande longa ewe o oh, inson Eme wangao Longe mole de nikae
Du princesse Mosquito, parfum de Paris, nana collé.
Zambé les messages, les cambo, bako salam, ba évite. Bako kana souria barka, asali bangonini. Et pa iba kuna motolo na yena ni amona. Bibi nae, na cité.
Oh sango, oh sango, oh sango, oh
sango nanga.
Chiare, 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 ayo yo yo. Chiare, 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 ayo yo yo.
Imandante aye, imandante aye, imandante aye. Barika mongo.
Enigma, kulutu lebi.
Mama, 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 mama,
Depuis le tout début de l'histoire du Canada, les personnes d'origine africaine ont fait d'importantes contributions au développement de notre grand pays.
Les balles de fusil pleuvaient comme...
William Hall est devenu le premier marin canadien, le premier néo-écossais et le premier noir à recevoir la croix de Victoria. Célébrons notre fier patrimoine. Célébrons le mois de l'histoire des Noirs.
Datura. Datura. Datura.
Mois de février, mois du patrimoine africain. Cette année, CUT, FM et le département d'études françaises soulignent le mois de l'histoire des Noirs et son 30e anniversaire. Tout au long du mois de février, et ce depuis 30 ans, CUT, FM vous invite à suivre les traces de la mémoire des personnes d'origine africaine et créole qui contribuent à la diversité de notre ville, notre pays et à l'essor de notre tissu social, notre économie et notre culture. Malgré les lois pour combattre la discrimination raciale et les inégalités au Canada, certaines personnes de race noire continuent malgré tout, malheureusement, à vivre un vrai calvaire et font face à l'exclusion, à l'emploi, à certains services essentiels, au niveau de la culture par exemple, dans nos médias, ils sont complètement absentés. Pour combattre ces clichés tenaces, véhiculés à doses peu subtiles par certains médias poubelles et certains politiciens et chefs d'État, nous vous invitons à faire le point sur les défis que rencontrent les personnes de race noire à Toronto et au Canada. L'histoire du mois des Noirs est l'occasion d'évoquer et de découvrir les expériences, les contributions et les réalisations des Canadiens et des Canadiennes d'origine africaine et créole. C'est à l'initiative de l'Ontario Black History Society, créée en 1978, que fut lancé au Canada le Mois des Noirs. Bien avant que ne fût reconnu officiellement le Mois de l'Histoire des Noirs au Canada, il y eut un mouvement qui visait à reconnaître les Nord-Américains d'origine africaine. En 1926, l'historien afro-américain Carter G. Woodson eut l'idée d'instituer une semaine de l'histoire des Noirs qui finit par devenir le mois de l'histoire des Noirs, qui coïnciderait avec le mois de naissance du président Abraham Lincoln et de Frederick Douglass, abolitionniste et ancien esclave. Ce fut les porteurs des voitures lits qui répandirent l'idée au Canada. Stanley G. Grissel organisa la première célébration du mois de l'histoire des Noirs qui se déroula en février à l'église méthodiste épiscopalienne afro-canadienne de Toronto. C'était à la rue Shore à l'époque, en 1950. Et à l'époque, justement, personne n'aurait pu prédire que cet événement enflammerait l'imagination de tout un peuple. Les efforts de la Canadian Negro Women's Association permirent d'alimenter au fil des ans ce mois que l'histoire des Noirs. En fin de compte, l'acharnement des fondateurs de l'Ontario Black History Society, Daniel G. Hill et Wilson O. Brooks, portera fruit puisqu'une pétition sera présentée à la ville de Toronto demandant qu'elle déclare officiellement que le mois de février serait désormais le mois de l'histoire des Noirs. La toute première proclamation canadienne eut lieu en 1979 à Toronto. En 1993, l'Ontario Black History Society présente une pétition à la ville de Toronto pour que le mois de février soit officiellement reconnu comme le mois de l'histoire des Noirs en Ontario. Cette demande sera couronnée de succès, ce qui encouragera à Rosemary Sadler, présidente de l'association, à glisser à Jean-Jean Augustin, plutôt, député, secrétaire parlementaire dans la circonscription d'Etobicoke à Toronto, l'idée de reconnaître officiellement partout au Canada le mois de février comme le mois de l'histoire des Noirs. La motion fut adoptée à l'unanimité à la Chambre des communes le 5 décembre 1995 et entra en vigueur en février 1996. L'Ontario Black History Society fut la seule organisation à avoir été avertie de la présentation de la motion aux chambres et de la tenue du vote. Elle fut aussi la seule organisation non gouvernementale à être invitée à la réception selecte organisée sur la colline du Parlement, à laquelle prenait part le Premier ministre Jean Chrétien, qui donna le coup d'envoi à l'événement. Mois de l'histoire des Noirs. Cette année, CUT-FM et le département d'études françaises soulignent le mois de l'histoire des Noirs et son 30e anniversaire.
Je voulais connaître mon peuple, car je ne le connaissais pas. J'aurais pu regarder ma peau, mais ça ne suffisait pas. Les livres d'histoire en parlaient, mais ce n'était pas assez. Alors j'ai décidé de voyager dans le passé. J'éprouvais une certaine jalousie envers mes ancêtres. Je voulais vivre le moment, même si je sais que l'esclavage était loin d'être un amusement. Mon voyage débuta en Afrique, dans les années 1800. La traite des Noirs devenait un marché enrichissant. Les hommes travaillaient fort. Leur colère était leur salaire, ce qui est normal lorsque l'on brise vos familles et vole vos terres. Leurs femmes étaient forcées à devenir des domestiques et les enfants trop jeunes se perdaient dans des destins tragiques. Le village que j'ai visité était dans une crise hallucinante. Meurtre, viol, croyez-moi, une marque de violence. La méchanceté des colonies me traumatisait à un tel point que je décidais d'aller 50 années plus loin, changeant de continent, me dirigeant vers l'Occident, aux États-Unis, avec la démocratie, les Noirs doivent être traités différemment. La situation a évolué, mais il y a encore des problèmes. Pour les Blancs et les Noirs, les toilettes publiques ne sont pas les mêmes. Et parmi le peuple, les dirigeants se lèvent face à cette injustice. Martin Luther King, un homme qui combattait la violence par sa foi en Jésus-Christ. À son apogée, voyant le progrès, ils l'ont éliminé. Mais le rêve qui était en lui, ils n'ont pas pu le tuer. Les années ont avancé, comme les droits. Et les Noirs ont le droit de vote. Il a fallu des sacrifices, des larmes et des autobus pour un boycott. Le voyage était plein d'émotions, mais il fallait revenir chez moi. Aujourd'hui, la situation a évolué, et je le vois. Plusieurs se plaignent et trouvent qu'il y a encore de l'inégalité. Mais laissez-moi vous dire que vous ne voulez pas retourner dans le passé. Suite à ce voyage, j'ai vu l'évolution de mon histoire. Et laissez-moi vous dire, je suis fier.
mesdames, messieurs, mois de mars, mois international de la francophonie, édition 2017. 30 ans, 30 ans de francophonie à CUT-FM, langue française, diversité linguistique. Un projet parrainé par le département d'études françaises à l'Université de Toronto, le campus de l'Université de Toronto de Mississauga, le centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Université de Toronto, le professeur Eddie Bouraoui et le Centre Canada Méditerranéen et Radio France Internationale, Ciné Franco, Hot House, la semaine de la francophonie et bien sûr CUT-FM. Depuis 30 ans, l'émission Potpourri ose, surprend, raconte et rassemble. Soyez parmi nos invités aux émissions spéciales tout au long du mois de mars. Table ronde, cocktail, débat, concours et spectacle. Pour la première fois, le campus de Mississauga, section française du département d'études langagières de l'Université de Toronto, organise une série d'activités, célébration de la francophonie dans un esprit de diversité, d'espace positif LGBTQ. Friendly, eh oui, et d'ouverture, l'ouverture sur le monde francophone. Au programme, cette année, le lundi 13 mars, un cocktail ciné réservé à tous les francophones du campus, de 18h30 à 21h, sur invitation. Le jeudi 16 mars, une soirée des talents organisée pour les étudiants et le personnel du département avec un groupe franco-ontarien en invité spécial. De 18h30 à 21h30, du chant, de la danse, de la musique, des sketchs et des scénettes extraites de l'œuvre théâtrale du dramaturge québécois Marcel Dubé. Entrée gratuite, avec ou sans invitation. Si vous désirez être partenaire à nos projets de Francophonie édition 2017, vous envoyez un message à pot.pourri@simpatico.ca ou encore 416 946 7000. Mois de mars, mois de la francophonie, édition 2017, 30 ans de francophonie à CUT-FM, langue française, diversité linguistique. Et nous remercions chaleureusement tous nos partenaires à ce projet. Employeur, employé, connaissez-vous vos droits? Droits du travail en direct sur CUT 89,5 FM. Pour célébrer notre 30e anniversaire à l'antenne, nous sommes heureux de vous proposer une nouvelle chronique et un nouveau collaborateur et partenaire. Vos droits au travail, comment ça marche avec Maître Lamarche? Une fois par mois, Maître Lamarche du cabinet d'avocats Signe Lamarche, situé à Toronto, répondra à vos questions. Congédiement injustifié, congé de maternité, congédiement déguisé, droit de la personne, les obligations fiduciaires, les obligations post-emploi, le harcèlement au travail, les normes d'emploi, l'interprétation contractuelle, la rémunération pour des heures supplémentaires, les questions liées à la communauté LGBTQIA et les indemnités de départ. Vos droits au travail, comment ça marche avec Maître à la marche en direct à l'antenne.
The sound of your city. CIUT 89.5, Toronto. Listen to us on the go with TuneIn Radio's free app. Or go to the live stream at www.ciut.fm. Right here, right now, every day. CIUT 89.5 FM.
Vous écoutez Potpourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
J'ai des amis dans les villes.
Allez les gars, à vote!
petit goût de miel, un petit goût de fiel.
J'ai des amis proches ou lointains, j'ai des amis dans tous les coins.
Hello.
Bonjour.
Tant que la terre sera ronde, j'irai au
ici
tour du monde.
Là-bas,
voir d'autres êtres humains.
Ailleurs,
ni plus ni moins.
RFI.
RFI.
On en fait tout un monde.
Et bienvenue, madame, monsieur, à Potpourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde. Et je vous rappelle, pour nous joindre, si vous voulez partager vos perspectives, vos témoignages ou passer des commentaires dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, vous nous envoyez un message à pot.pourri@sympatico.ca ou encore 86 946 7000. Et aujourd'hui, à ne pas rater, le premier gagnant de notre premier jeu concours dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs sera peut-être des nôtres aujourd'hui. On verra bien s'il répond correctement à la question d'aujourd'hui et que je vous donne dans un instant. L'Ontario adopte la loi contre la discrimination raciale. Est-ce en 1944, B en 1950 ou C en 1958? Et aujourd'hui, nous avons des billets du Festival Sketch Comedy de Toronto au mois de mars ou encore un repas dans un de nos restaurants participants le mois prochain. Et bien sûr, nous allons nous replonger dans cette assermentation du président d'Haïti, le nouveau président d'Haïti, Monsieur Jovenel Moïse, qui s'est déroulé mardi dernier à Port-au-Prince. Nous allons aussi peut-être avoir l'opinion de notre invitée Janine Maillard, qui est la fondatrice de FKZO, ce festival Compazouk de l'Ontario qui fait fureur ici dans la province, pour savoir un peu qu'est-ce qu'elle en pense de ce décret du président américain sur la déportation de certains ressortissants étrangers. Et bien sûr, nous allons aussi faire un comeback, un retour sur les gagnants, les vainqueurs, les lauréats de la dernière édition des Victoires de la musique. Madame, monsieur, à ne pas rater dans la deuxième heure. Et nous remercions encore une fois chaleureusement Dr Éric Pierre, le consul général, le consul honoraire d'Haïti, qui était à l'émission la semaine dernière dans le cadre du lancement de notre mois de l'histoire des Noirs à l'antenne. Merci, merci encore infiniment. Beaucoup de commentaires extrêmement positifs. Alors aujourd'hui, nous allons faire un arrêt, si vous voulez, en Tunisie. Traite et esclavage des Noirs en Tunisie. Si la traite transatlantique et l'esclavage des Noirs aux Amériques sont assez connus, on ne sait presque rien de la traite transsaharienne. Manque de documents, peut-être, silence embarrassé ou sujet tabou. La Tunisie, l'un des pays du Maghreb où les Noirs sont à peu près invisibles, a pourtant été l'une des destinations importantes de cette traite intra-africaine, abolie au cours des années 1840 par les autorités de Tunis, puis par la France après l'instauration du protectorat en 1881. L'esclavage a persisté jusqu'au début du XXe siècle et ses traces sont encore visibles aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce magazine avec notre ami et animateur du magazine Mémoire d'un continent, Elikia Mbokolo, nous allons recevoir une invitée exceptionnelle, Inès Mrad Dali. Elle est historienne, auteure d'une thèse « Identité multiple et multitude d'histoires, les Noirs tunisiens de 1846 à aujourd'hui ». Collaboration spéciale RFI.
L'atelier de l'histoire.
Thème d'aujourd'hui, la traite des Noirs et l'esclavage des Noirs en Tunisie.
Mémoire d'un continent. Isabelle Godino, Elikia Mbokolo.
<t'->
Les débats aujourd'hui font rage sur les problèmes de la traite et de l'esclavage, non seulement dans les pays africains, mais aussi dans les pays qui ont été les pays receveurs d'esclaves africains. Ce débat, on le sait, est particulièrement vif par rapport à la traite atlantique, donc en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, et naturellement dans les pays européens. Dans ce débat commence à apparaître une autre question, c'est celle des mouvements, des trafics, des routes, des manifestations du phénomène esclavagiste sur le continent africain lui-même, et en particulier la manière dont, de part et d'autre du Sahara, les caravanes négrières ont été organisées, sous quelle forme, à partir de quel moment, avec quels effectifs et aussi avec quelles conséquences pour ces esclaves une fois arrivés en Afrique du Nord. Ce débat, qui est un débat extrêmement important, on s'en rend bien compte, ne pose pas seulement des problèmes de mémoire, il pose aussi des problèmes d'histoire. Avec quelles archives mener une telle enquête? Faut-il spécifier les lieux de départ, les lieux d'arrivée? Et on imagine bien que de l'Égypte au Maroc, ces mouvements ont été divers, importants. Et pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le problème de la Tunisie. Grâce à une chercheuse, une historienne, qui a fait une thèse très très importante sur la traite négrière et l'esclavage en Tunisie, traite qui évoque à la fois le trafic des esclaves, mais aussi la traite proprement dite, mais encore l'abolition de l'esclavage et finalement ce que sont devenus ces Noirs dans la société tunisienne. Inès Mourad Dalil, lorsque vous avez commencé cette thèse, on vous avait expliqué que il n'y avait pas de problème noir en Tunisie, qu'il n'y avait pas de problème esclavagiste en Tunisie. Alors, comment avez-vous procédé pour arriver donc à publier un gros travail de plusieurs centaines de pages? Est-ce qu'il y a des sources crédibles? De quelle nature sont-elles et comment vous avez techniquement fait ce travail?
Bon, les sources existent, même si c'est un sujet dont on a jusque-là parlé assez peu. Mais contre toute attente, les sources existent, qu'elles soient orales, donc mémorielles, ou bien tout simplement archivistiques. J'ai beaucoup travaillé sur les archives, qu'elles soient tunisiennes ou diplomatiques françaises, ou encore les archives du Foreign Office qui se trouvent à Kew. Donc,
près de Londres, à Kew.
Absolument, c'est près de la capitale britannique. Et je ne m'attendais pas à trouver autant de dossiers relatifs à la question des traites, de l'esclavage, des abolitions.
Est-ce que ce sont des sources qui remontent très loin dans le passé pour nous permettre de faire une histoire sur la très 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 longue durée, ou est-ce que ça serait plutôt des sources relatives aux époques où les explorations se multiplient, notamment à travers le Sahara?
Bon, il y a forcément des sources de l'administration coloniale, donc là, elles portent plus généralement sur la période abolitionniste, etc. Mais il y a des documents qui portent pas directement sur la question des esclaves, mais qui indirectement apportaient beaucoup d'informations sur la vie des esclaves, sur les traites. Voilà, c'est ce qui m'est apparu en tout cas.
Lorsqu'on a étudié la traite transatlantique, on disposait des cahiers, des navigateurs avec des points de départ, des points d'arrivée, des chiffres, des incidents de navigation. Est-ce que c'est aussi riche pour la traite transsaharienne?
Effectivement, on a l'impression, en considérant les documents existants, que pour ce qui est de la traite transsaharienne, les documents sont beaucoup moins précis. On a l'impression que c'est quelque chose qui se faisait au gré du hasard et qu'il n'y a pas vraiment... Ce n'était pas un commerce organisé comme pouvait l'être celui relatif à la traite transatlantique. Mais après, moi je pense qu'il ne faudrait pas conclure trop vite. Je pense que ces documents existent, sont nombreux, ils nous permettraient de remonter à très loin dans le temps. Mais il y a peu de recherches entreprises sur ces sujets-là et ce n'est pas vraiment les documents qui manqueraient.
Et vous avez mené aussi des enquêtes orales. Alors comment se présentent ces enquêtes orales? Quel genre de population avez-vous interrogé? Qu'est-ce que vous avez obtenu comme information par ces enquêtes de terrain qui, disons, empruntent beaucoup à l'ethnologie ou à l'anthropologie?
Absolument, j'ai fait le choix d'interviewer particulièrement ou principalement des Noirs tunisiens. Je voulais vraiment travailler sur le discours noir en Tunisie, et non pas sur ce que les blancs voulaient bien dire sur le noir. Et donc là, j'ai essayé de multiplier les interviews. Au début, ça a été très très difficile parce que bon, il fallait, ce qui est normal, mettre en confiance certaines personnes, surtout qu'il s'agissait parfois de sujets sensibles. Et finalement, au fur et à mesure où j'ai approfondi des liens avec ces personnes, j'ai réussi à aborder des sujets très intéressant comme ceux relatifs aux relations entre noirs et noirs en Tunisie, parce qu'il s'avère que il y a des différenciations et des ségrégations intra-minoritaires même, qui sont liées aux origines différentes, de différents lignages, par exemple, de régions précises. Enfin, même si la Tunisie est un petit pays africain, il y a une complexité extraordinaire et des différences énormes entre différentes régions du pays, dans l'histoire, dans le vécu actuel, dans les relations.
Et ses origines, justement, on voit bien où est placée la Tunisie, c'est presque au centre de l'Afrique du Nord, donc c'est un pays vers lequel pourraient converger des routes venant de partout. On sait de quelle région de l'Afrique au sud du Sahara provenait, disons, l'essentiel des esclaves parvenus en Tunisie.
Absolument, il y a beaucoup de sources. Moi, j'ai trouvé dans les archives pas mal de documents, de témoignages d'esclaves marrons qui ont pu être interviewés pour des raisons différentes et qui donc relatent leur parcours, d'où est-ce qu'ils sont arrivés, par où ils sont passés. Et beaucoup seraient arrivés par de la région du Bornou. De façon générale, ils proviennent de ce qu'on appelle le Soudan central. Et ils passaient par la Tripolitaine ou parfois par le biais de l'Algérie pour arriver en Tunisie. Mais je voudrais préciser que on a toujours l'impression, on a l'idée que les esclaves de l'Afrique du Nord sont parvenus dans cette région par le biais de la traite transsaharienne, mais il s'avère qu'il y a aussi une traite transméditerranéenne, si je puis dire. Enfin, les esclaves pouvaient arriver en Tunisie par la voie maritime, tout simplement. De Tripolitaine, ils faisaient escale en Tripolitaine, et de là, ils prenaient le bateau, on les emmenait en bateau, et ils arrivaient sur les côtes tunisiennes.
Et donc, il y a des mouvements complexes, sud-nord, et puis, à partir du nord, des gens qui peuvent venir de Tripoli, donc l'actuelle Libye, vers la Tunisie.
Absolument.
Mourad Dali, nous parlons ensemble de la traite et de l'esclavage en Tunisie, venant donc de l'Afrique au sud du Sahara. Vous nous avez expliqué comment ces mouvements se sont mis en place, et donc on arrive évidemment à ce que les esclaves deviennent une fois qu'ils sont en Tunisie. Là encore, en comparant avec l'Atlantique, beaucoup ont dit que la traite transatlantique repose sur l'exploitation de la force de travail des Africains, alors que, selon eux, c'est toujours les visions un peu traditionnelles, l'esclavage des Africains en Afrique du Nord aurait été plutôt un esclavage domestique, et certains diraient un esclavage plutôt doux ou adouci. Alors, quels étaient les usages? Qu'est-ce qu'on faisait de ces esclaves, hommes ou femmes, une fois arrivés et installés en Tunisie?
Bon, globalement, effectivement, ce sont des gens qui étaient assignés à des travaux domestiques. Ils avaient aussi des fonctions assez polyvalentes. Ils pouvaient se retrouver au champ et plus tard travailler au sein de la maisonnée. Enfin, il n'y avait pas de fonction vraiment spécifique. Mais ce que j'ai pu constater par ailleurs, c'est que aussi il y avait des différences selon les régions. Par exemple, sur l'île de Djerba, qui se situe au sud-est de la Tunisie, au moment des abolitions, par exemple, les Djerbiens se seraient opposés à ce décret, parce qu'ils auraient utilisé les esclaves pour travailler leur champ. Mais il y a des travaux qui ont été faits et qui montrent que ces esclaves, donc djerbiens, travaillent dans les petites exploitations agricoles. Donc a priori, il ne s'agit pas de formes d'exploitation massive.
Dans des grandes plantations.
Voilà, telles qu'elles étaient pratiquées dans les Amériques, par exemple. Donc voilà, et je pense qu'il y a une complexité des situations. Après, est-ce qu'on est en mesure de juger de la douceur ou non de l'esclavage tel qu'il était pratiqué? Et je suis tombée sur des documents qui rapportent des cas de maltraitance. d'esclaves qui servaient dans des familles de notables tunisois avec des descriptifs terribles sur les traitements s'agissait de femmes qu'elles avaient pu subir.
Et est-ce que, compte tenu du poids de l'islam dans ces sociétés, est-ce que dans le Coran, dans les hadiths ou dans les textes plus tardifs, est-ce qu'il y a des préceptes sur le traitement des esclaves?
Absolument. Le Coran et les hadiths sont porteurs de textes, d'appels à un traitement clément des esclaves. C'est un fait. Il y a même beaucoup de penseurs qui étaient en faveur d'une forme d'abolition, même si on peut parler d'abolition dans un cadre, dans un contexte, dans un cadre religieux.
Vous parliez des abolitions. L'abolition, c'est un mouvement qui se répand dans le monde au 19e siècle. Alors là aussi, il y a des idées reçues. Donc on dit que c'est d'abord en Europe que le mouvement abolitionniste est apparu et s'est développé surtout au 18e siècle. Est-ce qu'il y a un abolitionnisme dans les pays de l'Afrique du Nord et en particulier en Tunisie? Un mouvement donc de pensée individuelle ou organisée de gens qui vont dire, pour toutes sortes de raisons, religieuse, politique ou autre, que l'esclavage est une mauvaise chose et qu'il faudrait le supprimer rapidement ou progressivement.
Effectivement, au même moment, enfin au début du 19e siècle en tout cas, au même moment où il y a eu un courant quelque part universel qui tendait vers l'abolitionnisme et qui mettait en avant donc
les thèses de l'égalité, disons, entre les hommes,
humanisme, etc. Au même moment, il y avait l'équivalent en Tunisie. Et, le Bey Ahmed, par exemple, qui est à l'origine du premier texte d'abolition en 1846, est connu pour être un souverain éclairé. Il était considéré comme tel. Il y a eu également des hommes proches de la cour, des ministres, des notables religieux aussi, comme ministre, j'ai pensé à Ibn Abi Lief, qui était en faveur de l'abolition d'esclavage, de la libération des esclaves. Comme notable religieux, je pense à Bayram V, qui cherchait à convaincre en se basant sur les textes, justement sur le Coran, sur les hadiths, pour dire que c'est contre la religion, c'est inhumain de maintenir ces populations en esclavage, d'autant plus qu'il y a des abus, il y a des maltraitances, etc. Et bien avant le début du 19e siècle aussi, il y a eu des penseurs dont on parle peu ou dont on diminue l'importance. Je pense à Ahmed Baba de Tombouctou, par exemple, qui a vécu au 16e, 17e siècle, qui a écrit un texte important aussi sur cela.
Il y a donc un mouvement.
Absolument. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur ces questions-là, beaucoup de penseurs qui ont réfléchi sur ces questions et qui ont écrit des livres qui sont fameux, mais dont on parle peu, peut-être parce qu'ils n'ont pas été traduits aussi, ils sont rédigés en arabe.
شوشان يا ليه يا حمرا يا حمروني يا
Inès Mourad Dalil, en 1846, donc il y a le premier texte abolitionniste dans un pays, donc à Tunis, en Tunisie, venu de l'intérieur. Alors ce texte-là va être suivi par un texte qui date de la période du protectorat. Le protectorat est instauré en 1881. Alors comment se fait-il qu'en 1881, les Français qui instaurent le protectorat en Tunisie abolissent l'esclavage alors qu'en principe il avait déjà été aboli presque 40 ans auparavant?
C'est d'autant plus drôle que le texte de 1890 dit « Nous abolissons l'esclavage qui n'existe pas ». Donc ça montre que ce texte n'a pas été promulgué uniquement parce que l'esclavage aurait continué après 1846. Ce texte a été promulgué du fait qu'en 1889-1890, il y a eu de nombreux scandales de détention abusive d'esclaves qui ont touché, que ce soit des notables tunisois ou des personnalités françaises, dont le résident général Massicot lui-même, qui avait été accusé de s'être procuré une esclave et de l'avoir donnée à sa sœur, qui l'aurait emmenée à Paris parce qu'elle voulait apprendre l'arabe. Suite à toutes ces affaires qui touchaient la résidence française elle-même, des colons français, qui étaient des dissidents finalement par rapport à la politique française menée en Tunisie, publiaient des articles en dénonçant donc toutes ces affaires-là et dénonçaient la politique la résidence qui était finalement très conciliante par rapport à toutes ces affaires qui se continuaient. Ces colons, en tout cas des avocats, des membres aussi de la société anti-esclavagiste française, etc., dénonçaient aussi le fait que la résidence française ait jusque-là laissé cette cause donc, anti-esclavagiste aux mains des Britanniques, malgré que la France...
Était la puissance de tutelle
absolument.
En Tunisie.
Et la France avait effectivement laissé cette mission, si je puis dire, à l'Angleterre, sachant que les Britanniques ont pris en main cette cause avec le gouvernement tunisien et les instances tunisiennes pour lutter contre tous les faits d'esclavage. Et même après 1881, alors que les Britanniques avaient voulu céder cette action à la France, le résident français leur a dit non, vous pouvez continuer. Donc le décret de 1890 n'a pas été décrété par hasard, c'était quelque chose de politique, ce n'était pas un projet humaniste ou réellement basé sur la nécessité d'abolir définitivement l'esclavage.
Donc on voit qu'il y a eu des résistances après le décret de 1846. La France, puissance donc protectrice, hein, puisque c'était un protectorat, décide d'abolir à son tour. Alors finalement, on sait que souvent, lorsque l'esclavage est juridiquement aboli, ça ne se passe pas comme ça, parce que les pratiques continuent. Il faut beaucoup de temps, parfois une génération, pour que les séquelles disparaissent au moins de manière visible. Donc là, nous étions en 1890. Au début du XXe siècle, est-ce qu'on voit encore des traces de cet esclavage ou est-ce que c'est un phénomène dont on peut dire que, juridiquement au moins, il a disparu et que les Noirs tunisiens obtiennent, disons, un statut qui est l'équivalent de celui des autres Tunisiens de la même époque ?
Effectivement, juridiquement, l'esclavage n'existe plus à partir de 1890. Au début des années 1890, il y a des décisions administratives qui disaient en fait il ne faut plus parler d'esclavage. L'esclavage n'existe plus, on n'en parle plus. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que ce n'est pas que l'esclavage disparaît du jour au lendemain, mais c'est qu'il y a une transformation un petit peu du phénomène. D'abord, une transformation sémantique parce qu'on ne parle plus d'esclavage, mais il y a aussi d'autres formes. C'est sûr que la traite, enfin la circulation d'esclaves devient plus difficile. Beaucoup d'esclaves ont été affranchis et ont pu petit à petit... vivre comme des hommes libres, donc je pense qu'ils ont vécu une misère considérable. Enfin, il y a beaucoup de témoignages sur ça ou de cas qui le montrent. Donc il y a une disparition du phénomène de l'esclavage en tant que tel, mais on voit apparaître d'autres phénomènes de dépendance. En fait, la situation devient beaucoup plus complexe après la disparition juridique, en tout cas de l'esclavage en tant que tel. Mais moi, personnellement, par rapport aux recherches que j'ai faites, je pense que le noir tunisien, le noir en tout cas descendant d'esclaves, n'a pu connaître une réelle émancipation qu'après les années 60-70, dans le sens où beaucoup de noirs sont partis, ont immigré à l'étranger, notamment en Europe, avec les politiques d'échange, enfin, avec la France, etc. Et qui ont, en partant, ramené un certain capital qui leur a permis finalement de s'affranchir de cette dépendance, de ce rapport étroit avec le blanc, qui souvent, en tout cas, gardait une mainmise, un poids, un regard déjà assez discriminant, rabaissant vis-à-vis du noir.
Merci beaucoup Inès Mrad Dali pour ces explications et donc nous nous retrouverons certainement puisque la question noire en Tunisie, si on peut l'appeler ainsi, ne s'arrête pas bien sûr au début du XXe siècle. Nous verrons dans une prochaine émission comment tout cela se passe dans la Tunisie d'aujourd'hui et quelles sont les traces visibles et invisibles du phénomène esclavagiste.
Mois de l'histoire des Noirs, Toronto, Ontario sur CUTFM.
Il est des petits pas qui font que la vie n'avance pas, des petits pas qui nous rendent petits. Pas les pas de passage, mais tous les pas d'aujourd'hui. De lundi à samedi et même jusqu'à dimanche. Shakere, shakere, papa. Shakere, shakere, là-bas. Shakere, shakere, maman. Shakere, shakere, là-bas. Des pas qui nous font nous y prendre comme des manches. Des petits pas qui voudraient être des ponts. Pour nous laisser le temps de ne pas rester cloche. Et faire le tour du monde à grands pas de géants. Des géants pleins d'envie qui pourtant n'osent pas. Dire simplement oui et répondre pourquoi. Shakere, shakere, papa.
Lowo Lanyo, c'est un artiste noir de la région d'Ottawa, ici en Ontario, Canada. Merci à notre ami Elikia Mbokolo, animateur du magazine Mémoire d'un continent RFI. Et aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'entendre des extraits de cette émission spéciale « Traite et esclavage des Noirs en Tunisie ». Et merci à tous ceux et celles qui ont répondu à la réponse d'aujourd'hui, et entre autres John Lee, qui nous écoute régulièrement et qui sera peut-être des nôtres avant la fin de l'émission. Il nous donnera sa réponse. Deuxième dimanche, oui, l'Ontario adopte la loi contre la discrimination raciale. A, en 1944, B, en 1950 et C, en 1958. Et à ne pas rater, dans la deuxième heure, j'espère que cela fonctionne, hein, avec notre amie, notre commère créole, Janine Maillard, la fondatrice du festival Compazouk de l'Ontario, et elle était présente lors de l'assermentation du nouveau président d'Haïti, Jovenel Moïse. Va-t-il pouvoir sauver son peuple? Eh oui, parce qu'il y a beaucoup d'attentes de la part des Haïtiens. Pays, il hérite d'une économie en lambeaux et d'une société profondément divisée. Jovenel Moïse a été assermenté président d'Haïti mardi dernier et nous avons eu une représentation de l'Ontario. C'était en la personne de Janine Maillard, à ne pas rater dans la deuxième heure, ainsi que le festival Sketch Comédie de Toronto. Des billets sont ici pour vous. Brie Watson, comédienne, sera des nôtres pour nous donner ses perspectives et son engagement en tant que comédienne lors de ce festival. Dans un instant, le point de l'actualité avec RFI.
Sur quelle planète suis-je tombée?
La planète Terre.
Bonjour.
RFI.
RFI, on en fait tout un monde.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you early North American country music and bluegrass on Radio Boogie with Steve Pritchard, Wednesday afternoons at 3.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Right here, right now, every day. CIUT 89.5, the sound of your city.
Jeanne Bartoli.
Ils demandaient justice pour Théo, mais leur rassemblement a dégénéré en violence. Des incidents ont éclaté ce soir en marge du rassemblement devant le tribunal de Bobigny, près de Paris. À près de 2000 personnes s'y étaient donné rendez-vous pour protester contre les violences policières, 10 jours après le viol présumé de Théo par un policier à Aulnay-sous-Bois. Des casseurs s'en sont pris à du mobilier urbain. Plusieurs véhicules ont été incendiés, parmi eux une voiture de la radio RTL. Les policiers qui ont fait usage de gaz lacrymogène était toujours déployé sur place dans la soirée. En Syrie, c'est une avancée capitale des troupes turques et des rebelles syriens. Ils ont pénétré aujourd'hui dans Al-Bab, dernier grand bastion du groupe État islamique dans la province d'Alep. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les troupes ont pénétré dans la partie ouest de la ville. Ils contrôlent désormais plusieurs secteurs. Des violents combats et des bombardements de l'aviation turque étaient rapportés aujourd'hui. Les deux fondateurs du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca ont été placés aujourd'hui en détention préventive. Mossack Fonseca, c'est ce cabinet au cœur du scandale des Panama Papers. Les deux hommes ont été mis en examen pour blanchiment dans le cadre d'un vaste scandale financier au Brésil. Selon le parquet panaméen, ils ont été incarcérés pour les empêcher de quitter le pays. La Corée du Nord a procédé ce soir à un tir de missile balistique en direction de la mer du Japon, annonce du ministère sud-coréen de la Défense. Le missile a été tiré il y a un peu plus de 2 heures. Nouvelle provocation du régime de Pyongyang. En Espagne, malgré les affaires de corruption qui ont terni son image, le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, a été reconduit ce soir à la tête du Parti populaire, élu avec 95% des suffrages. Personne ne s'était présenté en face de Mariano Rajoy, qui dirige le Parti conservateur espagnol depuis 2004. Les amateurs de manga en deuil, l'un des maîtres du genre, le japonais Jiro Taniguchi, s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 69 ans, annonce de son éditeur français Casterman. Kaufman, le japonais et l'auteur entre autres de Quartier lointain, le gourmet solidaire ou l'homme qui marche. Il avait œuvré toute sa carrière pour construire des ponts entre le monde de la bande dessinée occidentale et celui du manga. En Nouvelle-Zélande, la plupart des 240 baleines qui se sont échouées aujourd'hui sur une plage ont réussi à se remettre à flot grâce à une marée haute, annonce des responsables de la conservation. Les baleines n'ont néanmoins pas quitté la zone et les spécialistes craignent qu'elles ne s'échouent à nouveau. Ces derniers jours, plusieurs centaines de baleines s'étaient échouées sur le littoral néo-zélandais sans qu'aucune explication scientifique ne puisse être avancée. Une heure passée de 33 minutes ici à Paris. Excellente soirée à tous à l'écoute d'RFI.
La Radio Mondiale. Il y a ce que vous écoutez sur la Radio Mondiale et il y a ce que vous écoutez ailleurs mais qui passe aussi par RFI. Car sur les 5 continents, plus de 600 radios programment des émissions ou des musiques réalisées, concoctées, sélectionnées par l'équipe de la production musicale. Il s'agit en fait d'un formidable courant d'échange entre RFI et ses radios partenaires. C'est tel groupe angolais dont la cassette nous est envoyée par Radio Luanda et dont les meilleurs extraits vont repartir via RFI vers le Chili, le Vietnam, les États-Unis. C'est aussi cet invraisemblable joueur de vielle que nous envoie Radio France Puy-de-Dôme et que l'on va écouter à Lima, Jakarta ou Kampala. Chaque mois, 8 programmes musicaux sont proposés aux radios du monde entier. Beaucoup de chansons françaises, bien sûr, mais aussi un hit parade européen, une sélection de musique tropicale, du jazz, du classique, de la musique traditionnelle et parfois de la salsa.
Et oui, Ciné Franco Jeunesse qui a lieu du 21 février au 7 mars 2017 au cinéma du Famous Players Canada Square sollicite l'aide de bénévoles. Si vous aimez les enfants, les jeunes, si vous voulez promouvoir le cinéma francophone auprès des jeunes et si vous voulez rencontrer des francophones, des francophiles, formidable, pour faire partie de la belle équipe Ciné Franco, envoyez un courriel immédiatement à info@cinefranco.com pour devenir bénévole. Et maintenant, place aux lauréats des victoires de la musique édition 2017.
Élogie, un nom qui vous est déjà familier, accompagné par Ibrahim Malouf, et la révélation scène de cette 32e victoire de la musique. Mais cette année, c'est Jane qui fait une entrée fracassante dans le palmarès sacré artiste féminine. L'auteur-interprète remporte également la victoire du clip pour cette chanson. Après 7 ans d'absence, c'est un retour gagnant pour Renaud, sacré artiste masculin. Cette victoire est la 6e de sa carrière, toutes catégories confondues. Dans un message enregistré à Nantes, Renaud remercie son public, mais aussi...
Je dis aussi cette 10e victoire à mon fils Malone et à ma fille Lolita.
La chanson originale décernée à Vianney pour « Je m'en vais ». Plusieurs autres récompenses au palmarès qui reflètent une diversité musicale. Kongs dans la catégorie électronique, passant par le rock, signé Louise Attaque, et la musique du monde, envoûtante, du trompettiste franco-libanais Ibrahim Malouf.
Bon, haïtien, j'ai eu lieu. Pays a pas changé tout le monde, deux fois. Et c'est nous tous qui pourrons le faire changer. Une fois, même ensemble. Mouna en haut, mouna en bas, papa presse, vous avez diaspora, on nous chante.
Si vous parlez de politique, allez qu'on s'en pète la vie. Parlez de politique, allez qu'on s'en pète
la vie. Si vous
parlez de politique, allez qu'on s'en pète la vie. Parlez de politique, allez qu'on s'en pète la vie.
Ou pas bon 5 bouts sous chargé. Et puis tout en moi pour échec charité.
Oh, non, non, non. Oh, oh, oh.
Oh, il est pas bon. La caille, my friend. Pour tes résidents, pour y'en citiser.
Oh, non, non, non.
Yeah.
Oh, oh,
show. Conscience. Nous devons glace la vie là. J'ai le péché. Le bonheur qu'est la démocratie, mais la caille annonce des mains bougées.
Oh, non, non, non.
Oh, yeah.
Oh, il est pas bon.
politique c'est diplomatie, mais dans pays nous c'est hypocrisie. Oh, dans Bible la bon Dieu dit, et mon nous laisse les autres, qui n'est la caille qui dit. Yon nou lesen les ot alon realite. Bon Dje san fè na peye, son kwa na pote. Joun kase chen yon na vive.
Si pale,
fom pale,
kon san peti.
Sa ki verite.
Pale, kon san peti.
Wey,
telon ka
Igen,
dobol ka
Kiko te. Nan pey nan Le vater nan Le arrive Sagalo
Bientôt à l'émission.
Bonjour et merci de nous accompagner ici à Port-au-Prince. Nous sommes dans le studio que RFI a monté tout spécialement pour ces deux heures d'émission que je vais avoir le plaisir de vous présenter en direct de la capitale haïtienne avec des invités, avec notre correspondante Amélie Baron. On va parler politique, société, on va parler de l'avenir d'Haïti. J'espère que vous serez fidèles au rendez-vous, on compte sur vous.
Mois de février, mois de l'histoire des Noirs et des Créoles, surtout dans la région de Toronto, mais aussi en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, nous allons faire escale à Port-au-Prince. Mardi dernier, l'homme d'affaires de 48 ans, Jovenel Moïse, a prêté serment dans une salle du Parlement en présence de plusieurs parlementaires haïtiens et dignitaires étrangers. Il hérite d'une économie en lambeaux et d'une société profondément divisée. Les attentes sont énormes et beaucoup d'Haïtiens placent leur confiance en lui. Jovenel Moïse va-t-il pouvoir sauver son peuple des ouragans économiques et de la misère? Je vous rappelle que le gouvernement du Canada offrira à Haïti un nouveau don de 91,2 millions de dollars pour des projets de développement axés notamment sur la santé, l'éducation des femmes et des jeunes filles. Pour nous plonger au cœur de cette cérémonie d'assermentation du nouveau président haïtien et peut-être nous partager des scoops sur ce changement de pouvoir en Haïti, nous avons l'immense plaisir de recevoir celle qui était sur place, la représentante de l'Ontario, du Canada, la fondatrice de l'organisme culturel de l'Ontario, le Festival Compazouk de l'Ontario, Jeannine Meillard. Eh oui, bonjour cher ami, j'espère que vous êtes bien au chaud, hein, parce qu'on me dit qu'à Toronto ou dans la région de l'Ontario, il fait une tempête du tonnerre. J'espère que vous n'allez pas emprunter la route aujourd'hui.
Bon, et effectivement, bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Et bon mois de l'histoire des Noirs.
Et bon mois de l'histoire des Noirs, bien sûr. Ouais. Ça, c'est très, très important. Ouais.
Alors, je comprends bien que vous êtes encore dans les valises. Vous êtes à Montréal en ce moment?
Oui, on est à Montréal. Mmh. Alors, je viens tout de suite d'un pays très, très chaud, bien sûr, avec toute une joie dans mon cœur. Et là, je suis passée par Montréal et de Montréal étant, bon, je vais rentrer à Toronto.
Comment s'est passé votre séjour, justement, en Haïti en tant que délégué de Toronto ou du Canada?
Éric, ce fut tout un honneur et un plaisir, ouais. Parce que d'ailleurs, il faut le dire que son excellence Jovenel Moïse, c'est toute une reconnaissance aussi, le fait qu'il m'avait demandé de gérer sa campagne par rapport, parce qu'il devait venir au Canada, mais malheureusement, il n'est pas venu. Et à partir de là, bon, on a créé un lien, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, et c'est ainsi aussi qu'il a pu nous inviter, c'est-à-dire qu'il a choisi une délégation, et de là étant, on a pu assister à son investiture le 7 février dernier, qui fut une journée inoubliable pour plusieurs Haïtiens, pour plusieurs aussi qui l'ont défié, pour plusieurs aussi qui ne souhaitaient pas le voir au pouvoir. C'était incroyable de voir un président aussi rassembleur. Mmh. D'ailleurs, on est même arrivé là à l'appeler notre Obama.
Ah oui.
Oui.
Alors, dans son discours justement d'assermentation, il a donné un aperçu des priorités de son gouvernement. Il a promis de véritables améliorations. D'ailleurs, il y a beaucoup d'attentes chez les Haïtiens. C'est un peu le Moïse sauveur des Haïtiens.
Effectivement. Il faut dire, ce qui nous a impressionné, d'ailleurs, parce que, étant donné que j'étais sur place, je pouvais voir tout ce qui se passait. C'est que, Eric, lorsqu'on arrivait, les gens étaient sur la pression. Parce que jusqu'à la journée du 7 février, on était encore sur une pression à savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il y avait une annonce d'une manifestation. Il y a des gens qui avaient donné des pressions. Oh non, il va pas monter sur le pouvoir, tout ça, malgré qu'il était légal, malgré qu'il avait gagné. Et toute la sécurité policière qui était tight, la gendarmerie de quasiment tous les pays qui étaient là. Alors, on était quand même sur notre pression. Et là, lorsqu'il est rentré, et c'est là que j'étais quand même impressionnée, et plusieurs d'entre nous, surtout dans l'aile diplomatique, il a dit non, je descends. Je veux marcher avec mon peuple, je veux rentrer dans le pays, parce que son investiture s'est faite à l'extérieur, il veut rentrer à pied. Effectivement, il est descendu, il a marché avec sa femme, main dans la main, et il est rentré en marchant à pied avec tout son honneur, il avait peur de rien. Et lorsqu'il est arrivé, et là, l'éloge, les gens qui criaient « Yo, saisi !» Alors, c'est-à-dire, ils sont surpris, c'est-à-dire le choc, tout le monde est... Et alors, même ceux qui étaient contre lui, ceux qui étaient pour lui... Tous ces gens étaient au palais et ils étaient allés parce que c'était quand même privé. Il fallait vraiment une invitation très spéciale. Ils étaient tous là et on le regardait. Et il y avait l'ancien président aussi qui était là, Michel Martelly. Il y avait d'autres présidents qui étaient là. Il y avait l'Indonésie qui était là. Il y avait
Est-ce que Monsieur Trump, le président américain, était sur place?
Non, sa délégation était là. Il y avait la délégation américaine qui était là. Ils étaient 12 à peu près. Ouais. Il y avait du côté du Canada. Bon, c'est sûr que nous on était là. Madame Bibeau est arrivée après. Elle est venue le 8 février. Elle a été rencontrée le président sur place d'ailleurs. Et il y avait quand même notre délégation. En tout cas, je peux dire que tous les pays étaient représentés. Et ce qui m'a impressionnée, et ça, je peux vous le dire sincèrement, en étant dans l'aide diplomatique, après ça, j'étais assise en arrière du président du côté droit. Et on voyait que déjà là, tout un changement. Il y avait un vaudouisant qui est très connu de l'Ontario aussi. D'ailleurs, il vivait en Ontario. On l'appelle le Hati, c'est-à-dire un chef vaudouisant qui est Jokoma. À côté de Jokoma, il y avait le clergé, celui qui célébrait la messe, qui est catholique. Alors, c'est un cardinal. Et ce cardinal, Chibli Langois, qui était assis à côté de lui. Après Chibli Langois, il y avait un pasteur. Alors, un pasteur évangélique. Après, à côté de pasteur évangélique, il y avait aussi un musulman qui était assis à côté. Alors, il y avait tous les paliers religieux qui étaient représentés, c'était la première fois dans l'histoire présidentielle où il n'y avait pas question de catholique, je suis protestant, je suis musulman, je suis... Non, tout le monde était là, même un adventiste, il y avait même un pasteur adventiste qui était là. Et de voir tous ces paliers représentés, c'était incroyable.
Alors, je rappelle aux gens que le président Moïse devrait choisir un premier ministre au cours des prochains jours. Il a récolté, je rappelle aux auditeurs, 55% des voix lors du scrutin présidentiel du 20 novembre dernier. Mais un taux de participation qui a atteint à peine 20% fragilise la légitimité de son mandat, d'après certains. Et pensez-vous qu'il va pouvoir choisir un premier ministre qui arrive à unifier un peu toutes ces factions, parce qu'il y a beaucoup de factions en Haïti, pour le progrès Haïti avant tout, et non pour des individus qui cherchent uniquement à servir leur propre cause?
Sincèrement, je pense que oui, parce que ce qu'on peut voir déjà, comme tout à l'heure vous l'avez mentionné par rapport à son discours, il a parlé des quatre paliers très importants qui est très important pour lui, et c'est dans cette lancée-là aussi qu'il va choisir son cabinet. C'est ce qui est très important à l'être humain, c'est-à-dire l'eau, la terre, l'air et le soleil. Il va choisir un premier ministre qui est capable de vraiment qui est très transparent en même temps et qui est capable de choisir un premier ministre au niveau de l'environnement, parce que ça c'est très important pour lui, l'environnement, l'énergie solaire aussi, ça c'est très important, l'éducation, ça c'est primordial pour lui. Et aussi, ce qui est très très important aussi, c'est la femme. Il veut une équité, c'est-à-dire une équité salariale, il veut une équité au niveau de la femme et de l'homme dans son gouvernement. Et par rapport au premier ministre, il y a déjà un nom qui circule, Monsieur Amos André. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas, mais qui sont très très imbus de la politique, qui travaillent énormément au niveau du gouvernement aussi, et aussi qui selon plusieurs personnes, s'il est nommé, ça va être tout un changement radical. Nous avons travaillé aussi avec Monsieur Rénal Lubériste, que lui aussi, il a été déjà nommé. Il y a déjà une certaine liste qui est sortie depuis qu'il est nommé. Ça fait 2 jours, on entend des listes qui circulent, c'est-à-dire il y a Christine Jacques qui est devenue secrétaire nationale du Palais. Il y a Monsieur Rénal Lubériste qui est devenu secrétaire au Conseil des ministres. Alors, tous ces gens-là, je les ai vus moi-même personnellement travailler aux côtés de Monsieur Son Excellence, au fait, Jovenel Moïse. Et leur perception, ça va avec la vision de Jovenel. Mmh. C'est-à-dire, c'est mon pouvoir, c'est moi. Non, ils voient la vision du pays, l'avancement d'un pays. Et c'est ce qu'on a toujours voulu. Parce que malheureusement, la plupart des gens qui étaient au pouvoir, avant tout, oui, ils parlaient pour le pays, mais ils voyaient plus leur poche.
Voilà.
Mais là, lui, on peut voir déjà, parce que imaginez-vous son neveu, il l'a déjà envoyé à Israël pour voir comment il fonctionne avec le système de drainage. Select Aviation, qui était dans notre délégation, ils se sont déplacés, on les a amenés voir le président le lendemain. Ils offrent 60 bourses d'études à des Haïtiens pour apprendre à piloter des avions, des hélicoptères. Alors, parce que vous savez, dans la région des Cayes, il y a un aéroport qui est inutilisé. Alors, son excellence Jovenel Moïse, qui était devant nous d'ailleurs, il a dit, mais pourquoi vous avez pris aussi de temps? Vous êtes déjà en retard. Et vous êtes en retard. Et le lendemain, croyez-le ou pas, il a envoyé une délégation pour les accompagner au CAI, parce qu'il ne veut pas perdre de temps.
Oui.
Il veut accomplir ses promesses.
Alors, je rappelle aux gens que dans son discours d'assermentation, le président Moïse, président haïtien, a donné un aperçu des priorités de son gouvernement et a promis de véritables améliorations, particulièrement dans les secteurs ruraux négligés depuis longtemps. Il a déjà indiqué qu'il accordera une attention particulière à la campagne haïtienne, où près de 80% des ménages dépendent de l'agriculture. D'ailleurs, lui-même, il est un homme d'affaires dans l'exportation des bananes, n'est-ce pas?
Oui, effectivement, et c'est pour ça d'où vient la raison pour laquelle, parce qu'il y a plusieurs personnes qui demandent pourquoi on l'appelle Bonhomme? Pourquoi on appelle le président Bonhomme? Alors, effectivement, parce que c'est un entrepreneur très connu, il a une plantation, d'ailleurs, il a 10 hectares de plantation de bananes, et il faut dire que Monsieur Jovenel, il est vraiment, il a étudié en sciences politiques à l'université Kiskeya. Il a même introduit un projet par rapport à l'eau pour c'est-à-dire clean water. C'est ça son projet, parce qu'il voulait vraiment, parce que l'eau, n'oubliez pas que l'eau est un problème en Haïti encore. Alors il l'a introduit. Et alors vraiment, il a tout. Vous voyez que déjà sa vision, ça a toujours été l'avancement du pays.
Jeannine Maya, madame, monsieur, qui est la présidente fondatrice de FKZO, festival qui est très connu maintenant. Hein. Vous avez eu plusieurs prix, plusieurs prix d'excellence de la part du gouvernement de l'Ontario et d'autres secteurs. Alors, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de FKZO avant de partir. Le temps passe, mais quel est le moral des Haïtiens? Et vous étiez là, sur place. Est-ce que les gens étaient heureux, ils étaient enthousiastes, ou il y a toujours cette peur parce que ça dure des années et des années, ma chère amie? Haïti n'arrive pas à sortir du gouffre. Quel est le moral des Haïtiens aujourd'hui avec le nouveau président?
Pour le moment, on voit que c'est un espoir, c'est un enthousiasme. Ils ont hâte, ils ont hâte que ça bouge, et je peux pas dire qu'ils sont un peu tristes, c'est pas vrai, parce que suite à son discours, qui a été un discours rassembleur, et d'ailleurs il invite que ceux qui sont pour lui, que ceux qui n'ont pas voté pour lui, il les invite tous, ça a posé une certaine, c'est-à-dire les gens ont la paix, ils ont une confiance que c'est pas un président qui va aller plus sur je connais qui, mais plutôt sur l'excellence et sur l'apport de ces individus, de chaque individu, qu'est-ce qu'ils veulent apporter à l'avenir du pays.
Alors le Canada ouvre sa bourse, on sait que le Canada va l'aider avec une manne financière incroyable pour l'éducation des femmes, voilà, justement pour les femmes, les jeunes filles, l'éducation, c'est très 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 important, c'est leur priorité pour Haïti ces temps-ci. Et est-ce qu'il compte passer en Ontario ou visiter le Premier ministre du Canada?
Faire un tour? Oui, c'est dans le plan. Ouais. Je ne peux pas vous dire pour tout de suite quand, parce que son agenda est chargé en ce moment, c'est sûr, mais il s'en vient.
Alors, si jamais on peut aussi l'interviewer en direct à la radio.
Vous aurez l'exclusivité.
Alors, justement, on peut l'interviewer de Port-au-Prince. Hein. Nous, on voyage à travers la planète, comme vous savez. Alors, nous sommes dans les célébrations du mois de l'histoire des Noirs. La semaine dernière, nous avons été choyés d'avoir le docteur Éric Pierre, qui est le consul honoraire du Sénégal. Il est aussi dentiste, très impliqué, très engagé pour aider, venir en aide au secours des Haïtiens et surtout depuis le tremblement de terre de 2010. Et nous avons reçu beaucoup de commentaires très positifs. Alors, pour vous, après tant d'années en Ontario, au Canada, est-ce que vous pensez qu'on avance dans la bonne direction pour le droit, l'équité, l'égalité, chance égale pour les Noirs dans ce pays?
Écoutez, ça c'est une question vraiment, je peux dire que pour le moment, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Oui, on peut dire que on avance, on essaye d'avancer dans cette lancée-là, mais il y a beaucoup de travail à faire. Mmh. D'ailleurs, en Ontario, bon, par exemple, je peux prendre un exemple particulier par rapport à notre communauté, la communauté où se comprime la langue primordiale qui est le français, notre communauté francophone, où ce que malheureusement certains endroits, j'ai l'impression qu'on anère, on doit avoir un noir dans notre équipe, alors on va aller vers telle organisation. Bien sûr, excusez-moi, Eric, il y a plusieurs personnes qui vont me dire, Jenny, elle est trop directe, mais j'ai pas le choix parce que on le vit, j'entends les commentaires, et je pense que c'est le moment. Comme l'année dernière, la semaine de la francophonie, ça, pour moi, ça a été un choc, et c'est pas nécessairement pour moi, ça a été pour plusieurs organismes qui travaillent tellement dur en Ontario et qui sont multiculturels qu'on n'a pas été présents. Ils ont dû aller chercher quelqu'un jusqu'au Québec. Alors, je pense qu'il y a toujours une... parce que nous, on n'est pas là pour, au contraire, pour créer une barrière. Au contraire, on a les bras ouverts. Et c'est très important que, dans notre communauté, que ce soit anglophone, la même façon que l'anglophone embrasse toutes les couches sociales et raciales, c'est très important aussi au niveau de la francophonie qu'on fasse de même. Oui. Alors, c'est pas simplement le oui-dire, c'est pas simplement le dire, mais c'est aussi l'action. Alors j'espère de tout cœur que c'est pas c'est véridique, qu'il n'y a pas la crainte d'approcher et de pas dire que on n'a pas eu le retour d'appel, on les a contactés mais ils veulent pas travailler avec nous. Bien au contraire, c'est tout un plaisir, c'est tout un honneur. Alors par rapport à l'avancement, je pense que oui, il y a un travail à faire à ce niveau-là, au niveau de la communication, au niveau qu'on n'a pas à se défendre, on n'a pas à contacter par email pour dire pourquoi on n'est pas représenté. Mmh. Ça devrait être un réflexe immédiat. Il ne faut pas reproduire, d'ailleurs, même Gilbert Ozon, je prends l'exemple de ce qui s'est passé à Montréal avec la publicité du 375e de Montréal.
C'est catastrophique.
Ça a été catastrophique, mais Monsieur Gilbert Ozon l'a reconnu. Il a dit effectivement la diversité montréalaise rejoint toutes les couches. Ils ont changé la publicité immédiatement. Bizarrement, le 150e de l'Ontario, bon, on a contacté, on a eu des bourses d'études, des subventions, tout ça. Mais j'ai pas encore entendu les paliers de la francophonie dont on parle, où ce qu'on est assis tous ensemble.
Ouais, là, vous parlez du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Hein?
Voilà, ça, ouais. On nous a pas encore contacté. Ouais. Il y a des gens qui travaillent très dur. Ouais. Il y a Rose Cathy Andry, qui, mon Dieu, qui fait un excellent travail.
Alors,
il y a
on Léonie me dit...
Rose Cathy, c'est incroyable, je l'adore, cette femme-là. Elle se défend, elle travaille, elle fait tout.
Très bien.
Mais ce sont des femmes qui ont ouvert la porte pour nous, mais que, malheureusement, encore là, on a du travail à faire.
Jeanine Maillard, c'est tout le temps qu'on a, mais on vous invitera le mois prochain, dans le cadre du mois de la francophonie, pour parler de la programmation de FKZE cet été, parce que je pense, avec les célébrations du 150e anniversaire du Canada, il va avoir sans doute un programme assez coloré pour monter cette fête, parce que chaque année, FKZE maintenant est dans le feu de la fête, dans le rythme de la fête de ce festival Compazouk. Oui. Merci beaucoup pour votre dévouement au nom de tous les auditeurs, internautes.
Merci.
Et puis bon mois et bon retour. Surtout, soyez prudents. Hein?
Merci à vous. Merci à tous les auditeurs.
Allez, au revoir et à très bientôt.
Yeah, la vie New York, lève tes fêtes, vie New York City, tendez. Yo!
Yo, ta gueule, job, la vie New York. Yo, ta bonne, job, la vie New York.
Aller l'école, la vie New York.
Chaque jour après les mamans dans l'école, là, hein.
Bataille au clave, la vie New York. Moi, pape esclave, la vie New York.
Yo, beat, ça m'a trip sous les fous, tout réfugié, yo. Qui vient dans bateau, avant moi commencer, moi, bâti, gomme à la plaine. Côté de fête avec Sifrem Samuel. Après ça, nous te move Brooklyn. Pendant nek dans la rue, yo ta vend cocaïne. Oui, mes situations. Yo paraît sous moi, yo tu voulais payer un petit l'argent. Ensemble ça avec malette ça. Tout doucement entre dans machine ça. Côté nos bras, les leaders du nos bras, checker les Jamaïcains. Yo, n'a pas yo cocaïne, y'a pas nos l'argent yo. Mais si veille yo, yo gagne yo mollet, yo dit bambo clat. Yo tire dread la Camilat. 14 ans m'gagne, m'pas connaît ça pour m'faire. La vie New York, moi qui mette m'en batte. Mais les dîmes puis gampe, c'est la vie New York. Depuis m'te pile Kennedy Airport.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
The sound of your city. Right here, right now, every day. CIUT 89.5, Toronto.
Cette semaine, dans Francophonie, Marion Urban.
La langue parlée, c'est un art, celui d'une mise en bouche, l'apprentissage d'un rythme, d'une intonation, une musique des mots. Avec nous, pour en parler, Étienne Minungou, comédien, auteur et adaptateur de pièces de théâtre.
Francophonie, le magazine de l'espace francophone, présenté par Marion Urban.
L'importance d'un village se mesurait au nombre de fusils de chasse qu'il détenait. Nous étions un village de 20 fusils. On s'ennuyait beaucoup. Heureusement que des avions venaient nous bombarder de temps en temps. Ma mère allumait la radio et la cour de la maison se transformait en music-hall. Les postérieurs prenaient leur liberté.
Festival Sketch Comedy de Toronto, du 1er au 12 mars 2017 au Theatre Center. 11-15 Queen Street West. Et cette année, le Sketch Fest de Toronto promet d'être plus gros et meilleur que jamais. Des billets gratuits pour vous, les auditeurs. 86-946-7000.
Le français a complètement contaminé la langue arabe. Jusqu'à maintenant, pour dire « il a traversé l'autoroute et s'est fait écraser par une voiture », on dit « traversa l'autoroute, crasato automobile ». T'es sûr que t'es compris les français, toi ? De l'eau, du pain, du travail. Ah non, pas du travail. Je me suis écrit une lettre à moi-même. Une lettre de menace. Je me suis menacé, je me suis dit tout ce que je ne me suis pas dit depuis que je suis né. Les barbus sont vos hommes. Oui, ils portent des postiches pour infiltrer les terroristes. Et les autres sont de vrais barbus. Non, les autres, je les ai vus, ils ne portent pas de barbe. Oui, ils se rasent pour nous infiltrer. Ce qui m'avait frappé en arrivant, c'est que votre pays ressemble au souvenir d'enfance que j'ai gardé de l'Algérie française. Quand j'ai vu ça, je me suis dit finalement la France, c'est une Algérie française qui a réussi.
Et oui, le festival Sketch Comedy de Toronto, madame, monsieur, là c'était avec le comédien Felag, qu'on connaît très bien, algérien, qui fait un tabac en Europe, bien sûr, un peu partout, mais à Montréal aussi, au Québec. Et tout ça pour vous donner un avant-goût de ce festival Sketch Comedy de Toronto, The Toronto Sketch Comedy Festival, qui se déroulera du 1er au 12 mars 2017 et à Toronto. Et nous avons le plaisir d'accueillir Brie Watson. Elle est comédienne, globeuse, écrivaine. Elle fait des choses très intéressantes. Dans un instant, madame, monsieur, elle fait partie justement de ce festival au mois de mars. Oui, Brie Watson, comédienne, The Utilidors, Good Morning, Apocalypse, voilà. Est-ce que vous êtes là, Brie Watson?
Oui, je suis là.
Ça va?
Oui, très bien. Et vous?
Oui, ben, on me dit qu'il y a du tonnerre, de la neige, tempête de neige à Toronto, mais nous, nous sommes sous un cocotier, il fait 40 degrés, donc... On s'en fout
ouais,
de l'hiver.
C'est chanceux, ouais. un peu fou ici.
Oui, très bien. Alors, bienvenue à l'émission, c'est la première fois et vous allez remercier Damien pour nous,
oui.
Parce qu'il est super comme coordonnateur de toute cette activité. Alors, les gens ne sont pas au courant qu'il y a beaucoup de comédiens francophones qui font partie de ce festival qui s'en vient pour le mois de mars. Et vous êtes parmi ces personnes bilingues. Vous
oui.
êtes blogueuse, vous êtes productrice, écrivaine, comédienne. Alors, parlez-moi un petit peu justement de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a poussé, forcé, initié à la comédie?
Je travaillais déjà à Ottawa. Je travaillais pour le gouvernement à Ottawa. Et j'ai trouvé vraiment que c'était pas... Je pensais pas que c'était vraiment pour moi le travail dans un bureau.
Mmh.
J'avais déjà fait de l'impro quand j'étais au secondaire à Welland, en Ontario. Fait que j'ai fait un petit retour juste pour essayer de faire l'impro. Donc, quand j'étais encore à Ottawa. Et j'ai découvert qu'il n'y avait pas assez de lieux, de place pour pratiquer l'impro ou bien pour faire même n'importe quoi de plus. Que l'impro. Fait que j'ai décidé de déménager, j'ai changé mon adresse, je suis venue à Toronto et j'ai pris un cours au Collège Humber.
Mm-hmm.
Au Collège Humber, c'est un cours en comédie pour apprendre comment écrire et faire un peu de performance en comédie. Donc, je me suis enregistrée pour ce cours-là et j'ai commencé à faire un peu de stand-up. J'ai continué de faire des études en impro et c'est là où j'ai découvert que j'ai beaucoup aimé la comédie sketch. Donc, comme ce qu'ils font sur Saturday Night Live. Ouais.
Ces temps-ci, ça a beaucoup de succès. Hein?
Saturday ouais,
Night Live a
oui,
beaucoup
oui,
de succès.
Je viens juste d'entendre que hier soir, c'est la première heure, le plus populaire en comme depuis six ans,
oui.
l'épisode hier soir. Oui.
Ouais. Et tout ça grâce à des comédiens formidables qu'on a actuellement à la Maison-Blanche.
C'est ça, justement. Si on n'a même pas besoin de travailler trop fort. Ils
ouais.
font toute l'écriture pour nous.
Mais dis-moi, Brie, est-ce qu'on peut gagner sa vie en faisant de l'impro, des sketchs, être comédienne?
Ouais. Ça dépend. Il y en a beaucoup d'entre nous que, bon, en sketch spécialement, il y en a beaucoup d'entre nous qu'on réserve ce travail pour le soir et pendant la journée, beaucoup d'entre nous, on doit travailler à des restaurants où moi je travaille encore à un bureau, mais c'est quand même du travail qu'on fait parce qu'on est passionné, même s'il n'y a pas de garantie nécessaire qu'on peut gagner sa vie. Mais il y a des histoires de succès. Maintenant, ici, on a l'émission Baroness von Sketch. C'est quatre femmes dans leur quarantaine que Radio-Canada vient juste de ramasser pour une deuxième saison. Donc, il y a toujours comme la possibilité. Donc, je pense que c'est ce rêve-là qui nous donne le désir de continuer ou bien même c'est juste la passion de faire l'affaire qu'on décide de continuer, de poursuivre.
Oui. Alors, je rappelle aux gens qu'il y a plusieurs comédiens qui parlent les deux langues officielles du Canada lors de ce festival de cette année. D'ailleurs, si les gens veulent avoir des détails sur le contenu du festival, vous pouvez aller sur www.torontosketchfest.com et là, vous allez avoir tous les renseignements. Et vous êtes comédienne de The Utilidors Good Morning Apocalypse. Qu'est-ce que c'est?
The Utilidors, ça c'est ma troupe, on est un duo, c'est moi et mon ami Dave Lottie. Tous nous deux ensemble, on a pris des cours à The Second City.
Mm-hmm.
Puis une fois qu'on a terminé les programmes là, on a décidé de continuer à écrire ensemble parce que On trouve qu'on travaille très bien ensemble. Good Morning Apocalypse, ça c'est une troupe différente qui vient de Penetanguishene. Donc eux, ils vont venir visiter la grande ville de Toronto pour le festival.
D'ailleurs, il y a beaucoup de francophones qui vivent à Penetanguishene et à Welland, n'est-ce pas?
je sais pas pour Penetanguishene, mais à Welland, donc ouais. Quand même assez de francophones là. Il y a encore plusieurs écoles françaises aussi. Mais ouais, c'est ça. Je sais qu'il n'y a pas tellement de troupes qui travaillent uniquement en français, mais il y a quand même assez de performances qui sont intéressantes. Je sais qu'il y a une troupe qui s'appelle Dance Animal, et ça, c'est plutôt juste comme du travail avec leur corps. Ils font beaucoup de danse. Donc, si pour une personne qui ne comprend pas l'anglais, ça serait comme une bonne option pour aller rire et voir beaucoup plus de comédie physique.
Et vous, qu'est-ce que vous allez nous présenter lors de ce festival de cette année?
Nous autres, on fait beaucoup de sketchs, donc de présentations, c'est tout écrit. On fait beaucoup d'affaires de sketchs qui sont vraiment pertinents à la société comme moderne. Beaucoup de sketchs à propos des rencontres en ligne. On a une à propos de l'égalité entre les sexes. Mais c'est aussi pour démontrer l'absurdité de la société moderne. Mm-hmm. C'est vraiment qu'on aime présenter dans nos pièces.
Ouais. Alors, on est vraiment très heureux de vous avoir. D'ailleurs, si vous avez d'autres tournées dans la région de Toronto après le mois de mars, n'hésitez pas à nous appeler. On est là pour faire la promotion justement de tous nos amis artistes dans le monde de la culture, dans les deux langues officielles. C'est ça la radio de CUTFM de l'Université de Toronto. Alors, on vous souhaite bonne chance et vous allez encore une fois dire un grand merci et bonjour à Damien qui est très sympathique, qui nous a envoyé vos coordonnées, votre bio. Damien Nelson, Senior Publicity Manager au Flip Publicity, n'est-ce pas?
Oui, ouais. Elle est vraiment super.
Ouais. Alors, je rappelle encore une fois aux gens, nous avons des billets pour vous, madame, monsieur, si vous voulez aller voir justement notre amie Brie Watson, qui est comédienne, blogueuse, productrice, écrivaine, et sans doute elle fait beaucoup d'autres choses qu'on ne sait pas encore, n'est-ce pas? Alors, je rappelle aux gens, vous pouvez aller sur le site www.torontosketchfest.com pour tout savoir. Et le spectacle commence le 1er au 12 mars au The Theatre Center. Mais je pense qu'il y a plusieurs locations, là, plusieurs adresses où vous allez jouer. Alors, si les gens vont sur le site web, là, ils vont pouvoir avoir accès à tous les endroits et les adresses de ces performances, n'est-ce pas?
C'est ça, justement.
Alors, merci beaucoup et à bientôt. Hein?
À bientôt, merci.
Au revoir. Si vous avez besoin des billets, madame, monsieur, 86-946-7000.
C'est le plus grand signe de liberté. Pouvoir chanter, c'est le pouvoir même de la liberté. Moutou. On a quitté nos pays en grand nombre, laissant derrière nous ces tunnels sombres. La fin justifie les moyens. On prend la mer. Déterminé à échapper à la misère, même si on fait les derniers mètres à la nage. Notre but c'est d'atteindre l'autre rivage, peu importe les orages. Chers dirigeants, quand nos yeux croisent l'Occident, on saute la liberté, on crie la liberté, on danse la liberté, c'est la liberté. On saute la liberté, on crie la liberté, on danse la liberté, c'est la liberté. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi goûter ma liberté. Moi je viens de loin, je viens de loin, témoin de loin. Fuyant des politiciens et des groupes armés, on est venu en traversant la Méditerranée. Certains se noient sans laisser aucun indice, car surchargés sur une pirogue des moins d'hélices. C'est les champs pour tous ceux qui cherchent la liberté, pour ceux qui laissent tout derrière eux pour une vie meilleure, pour ceux qui traversent un long tunnel pour voir le soleil, pour ceux qui tiennent les coups malgré les manques de sommeil. On saute la liberté,
On crie la liberté, on danse la liberté, c'est la liberté, on saute la liberté. On crie la liberté, on danse la liberté, c'est la liberté. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi goûter ma liberté. Moi je viens de loin, je viens de loin, tellement de loin. Laisse-moi danser, laisse-moi goûter ma liberté. Moi je viens de loin, je viens de loin, tellement de loin. Oh, c'est l'une des immigrés, c'est l'une des expatriés, c'est l'une des arrivistes qui ne cherche qu'à chanter. C'est l'une des immigrés, c'est l'une des expatriés, c'est l'une des arrivistes qui ne cherche qu'à danser. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi goûter ma liberté. Moi je viens de loin, je viens de loin, tellement de loin. Oh, laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi goûter.
Et oui, madame, monsieur, tout au long du mois de février, toute l'équipe de CUTFM, la radio du campus universitaire de Toronto, avec ses partenaires, vous propose des émissions spéciales dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Et nous avons eu beaucoup de réactions de votre part, beaucoup de gens à l'extérieur aussi, des internautes. Vous pouvez nous envoyer des messages 416-946-7000 ou encore pot.pourrier@sympatico.ca tout au long de la semaine. Et justement, la semaine dernière, nous avons lancé notre première question, notre jeu concours. Et la première question, c'était, si ma mémoire est bonne, les marins des Antilles se trouvaient où après la guerre de 1818? Et puis aussi, où est né Mathieu Dacosta, le premier noir qui a mis les pieds au Canada. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de réponses, des bonnes et des mauvaises. Et quelqu'un qui a tout de suite répondu, il s'appelle John Lee, un auditeur très, très, très longtemps qui était des nôtres, nous a téléphoné et nous a envoyé ses réponses. Nous allons essayer peut-être de l'avoir avant la fin de l'émission. Tout de suite, je vous rappelle que le théâtre Young People's Theatre de Toronto présente une pièce très populaire et acclamée par la critique pour bébé, One Thing Leads to Another, Young People's Theatre, qui est ravi de présenter ce spectacle qui s'intitule Spectacle de l'arbre, qui a reçu d'ailleurs plusieurs prix en Europe. Et je vous rappelle que si cela vous intéresse, allez sur le site de youngpeoplestheatre.ca pour tout savoir. Cela débute le 16 février et nous avons peut-être des billets pour vous si cela vous intéresse. Théâtre Femmes, Scuderia Productions, en partenariat avec Oasis Centre des Femmes, est heureux de vous présenter le spectacle Les Monologues du Vagin. Les représentations auront lieu les 8 et 9 mars prochains à 19h30 au studio du Théâtre français de Toronto, situé à 21 rue Collège, 6e étage. The Vagina Monologues, si vous préférez. Vous allez sur le site pour réserver vos billets, www.scuderiaproductions.com/tickets pour tout savoir. Et puis, ne pas rater, si jamais vous voulez faire partie de notre célébration du mois de la francophonie, le mois de mars, vous nous envoyez un message immédiatement à pot.pourrier@sympatico.ca. Et cette année, nous sommes heureux d'accueillir des nouveaux partenaires, entre autres le CREFO et aussi l'Université de Toronto, campus de Mississauga et bien sûr le département d'études françaises de Toronto.
Victoire pour l'album Musique du Monde, Calypso Rose, mesdames et messieurs.
Et oui, c'était vendredi dernier lors des Victoires de la Musique, Calypso Rose, qui monte pour recevoir son prix.
Thank you. Merci. Have you got a few words for your French fans, French audience, quelques mots pour les fans français qui sont ici et le public du Zénith?
Amazing Grace, how sweet the song. I am happy to receive the Victoire de la Musique tonight. My great grandmother was from French Guinea.
Alors sa grand-mère était de Guinée française.
And she will be proud of me tonight to receive this auspicious award.
Et elle serait ravie ce soir de la voir recevoir ce prix.
I want to thank my fans all over the world.
Elle veut saluer ses fans tout autour de la planète.
I want to thank because music.
Elle veut les saluer à cause de la musique.
I want to thank my agent.
Elle veut saluer son agent.
Achomat.
Achomat, je crois.
I want to thank.
Elle veut remercier.
Jean-Michel, my agent.
Son agent Jean-Michel, en France.
I want to thank my government of Trinidad and Tobago and all my fans all over the world.
Et donc elle veut remercier toute sa communauté de fans à travers
le monde. They have kept me going.
Il l'aide à continuer.
With the beautiful music and the vibrations I give them.
Avec la belle musique et les vibrations qu'elle leur donne.
I want to thank Stone Tree Record for oui. Billy's Ivan Duran.
Sa maison de disque.
I want to thank you all. May God bless you. And you know something? I am the queen of France right now.
C'est la reine de France ce soir. Que Dieu vous garde. Applaudissements pour Calypso Rose. I take back the microphone. Thanks a lot. I give you your victoire. Congratulations. Applaudissements pour Calypso Rose.
Merci. Eh oui, 70 ans, hein. Quand même, il faut le faire. Est-ce que 70 ans, mon cher Sloane Ballant, vous allez pouvoir continuer à nous émerveiller et à chanter? Vous êtes encore jeune. Vive la jeunesse, mais vive Calypso Rose. Malheureusement, nous devons partir, je pense. Non, je ne vais pas chanter, c'est promis. Allez, est-ce que ce gagnant-là, il est virtuel? Il est vivant? Réel? Est-ce qu'il est physique? John Lee, on va frapper à sa porte de chambre. John Lee, where are you? Où est-ce que vous êtes?
Oui, bonjour Eric.
Oui, vous parlez français en plus, bonjour.
Oui, bonjour, comment ça va?
Ça va très bien, et ça fait longtemps, hein, vous vous souvenez, on était encore dans la petite vieille maison délabrée de CUTFM dans les années 80, fin 80, au début 90, et vous étiez parmi les premiers auditeurs de la radio. Hein.
Ah oui, je m'en rappelle très très bien, et je continue toujours de vous écouter,
et ben,
les dimanches.
Oui, ouais. Ben. Merci beaucoup de votre fidélité, hein. Ça fait plaisir, John.
Ah, ça, c'est un plaisir pour moi de vous écouter tous les dimanches.
Ouais. Et, n'hésitez pas à nous demander des disques, des chansons, dédicaces, comme vous voulez. Vous êtes roi.
Ah, merci beaucoup.
L'auditeur est roi, n'est-ce pas? Alors, la semaine dernière, vous avez répondu à la question, les marins des Antilles se trouvaient où après la guerre de 1818? Et les réponses en question, c'était en Ontario, à Détroit, en Nouvelle-Écosse ou en Jamaïque. Et vous avez répondu?
La Nouvelle-Écosse.
Eh oui, c'est une bonne réponse. Et vous n'avez pas triché là, hein?
Ah non.
Non, ouais, on ne triche pas. Nous. Alors, où est né Mathieu Dacosta d'après vous?
Alors, Mathieu Dacosta, on ne connaît pas vraiment son origine. On sait qu'il est né en Afrique de l'Ouest.
Mmh.
OK.
Ouais, vous pouvez pousser un peu plus, essayer de chercher encore.
Peut-être le Congo?
Non. Madagascar.
Ah, Madagascar.
Oui.
Ah.
Vous connaissez bien Madagascar.
Ah oui, dans l'océan Indien.
Bien sûr. Et on appelle les gens qui sont nés en Madagascar des Malgaches.
Des Malgaches,
n'est-ce pas?
Ouais. Ah,
okay. Et puis l'Ontario adopte la loi, ça c'est la question d'aujourd'hui. L'Ontario adopte la loi contre la discrimination raciale. C'était d'après vous en 1944, en 1950 ou en 1958?
C'était en 1944. Et d'ailleurs, l'Ontario, c'était la première province à entériner la loi.
Eh oui, ouais. Vous avez fait vraiment votre devoir. Vous faites honneur à la francophonie, mon cher ami. Comment vous aimez les émissions spéciales sur le mois de l'histoire des Noirs?
Ah oui, enfin, c'est très important, n'est-ce pas? Ils font partie de notre patrimoine canadien.
Mm-hmm.
C'est important de souligner leur contribution.
Oui.
Et d'ailleurs, en vous écoutant, j'apprends de nouvelles choses.
Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Par exemple?
par exemple, enfin, l'origine de Mathieu da Costa, et puis la contribution des marins des Antilles qu'on a parlé la semaine dernière.
Vous suivez aussi l'actualité canadienne, francophone, ou aussi ce qui se passe aux États-Unis ces temps-ci à la Maison-Blanche?
Ah oui, je suis comme, dépendant des nouvelles concernant le président Trump, là. Parce que ça affecte le monde quand même.
Oui. D'ailleurs, il cherche un interprète, là. Pour la visite de M. Trudeau cette semaine. Ça vous intéresse?
Ah, ça m'intéresse, n'est-ce pas?
Do you speak American? Do you speak Canadian?
Ça serait bien de voir avec comment Justin Trudeau
alors...
va réagir pour la première rencontre.
Et avez-vous vu comment il a serré la main du Premier ministre japonais?
Ah oui, je ne l'ai pas vu personnellement, mais j'en ai entendu ce matin aux nouvelles.
C'est bizarre.
Apparemment, c'était assez agressif de la part du premier ministre japonais. Hein?
Oui, et il ne s'attendait pas que M. Trump lui serre la main pendant 40 secondes, je pense. Et lui a même caressé la main un peu.
Oui, je pense que c'est important, n'est-ce pas, le langage corporel.
Il n'a pas de protocole. Ça, c'est un manque de protocole, je pense. Hein.
Certainement.
En tout cas, je vous remercie encore une fois. Continuez à participer à l'émission. Et d'ailleurs, nous avons des billets pour le sketch, là, si cela vous intéresse, le festival des sketchs avec vos amis, vos copains, la famille. Je peux vous envoyer les billets, hein, si cela vous intéresse. Vous êtes intéressé, oui?
Oui.
Parfait, alors ce sera votre cadeau. Je remercie beaucoup notre ami John Lee. Continuez à jouer avec nous, à participer. Merci d'être là. Merci à DJ Devera, merci à Sloan, merci à Janine Maillard de Montréal et de F. Cazo et Brie Watson, comédienne, ici dans la région de Toronto, l'Express de Toronto et le Radio France International. Allez, salut et je vous souhaite une bonne journée et bonne semaine, cher ami. Au revoir.
S'en va son menton, coupe sa respiration. Li gagne un tampon, la pompe à gonfler. Li gagne un eau quand la lit tombe sec. Li j'arrive à flairer avec la victoire. Finition septième round. Un grand déviement, extraordinaire. Ça coule à l'adversaire qui n'a l'avantage. Entraîner dans son coin, travailler à bain de soin. Réconfort son poulain. Alimentation et ventilation, conseil tactique pour mettre en service.